Le droit et nous, dans le plus de la grande matinale, avec Aliutal sur Africa Radio.
Polémique Thuram, liberté d'expression ou incitation à la haine raciale. Suite à la publication d'une interview de Lilian Thuram dans un quotidien sportif italien, Corriere dello Sport, une polémique est née sur la portée d'une phrase sortie de son contexte, d'après Lilian Thuram lui-même. En effet, c'est en répondant à une question qui lui a été posée sur les cris de singe racistes contre l'attaquant de l'Inter de Milan, Romelu Lukaku, qu'il a affirmé qu'il y a du racisme dans la culture blanche et qu'il est nécessaire d'avoir le courage de dire que les blancs pensent être supérieurs et qu'ils croient l'être et que c'est quelque chose qui dure malheureusement depuis des siècles. Est-ce faux que les blancs se croient supérieurs depuis des siècles? Les propos de Thuram ont-ils une connotation raciste? Quelle est la frontière entre la liberté d'expression et la provocation à la haine raciale? Nous débattons avec vous, chers auditeurs, aujourd'hui sur cette question avec des éclaircissements d'Aliou Tal, juriste, vous le savez, spécialiste de droit des étrangers en France, des droits de travail aussi, parce qu'on ne parle pas que des étrangers. Bonjour Aliou Tal.
Bonjour Phil.
C'est la rentrée du droit et nous. Est-ce faux de dire, comme Thuram, qu'il y a du racisme dans la culture blanche?
J'ai d'abord le plaisir de dire bonjour à nos auditeurs qui m'ont manqué, certainement qui nous ont tous manqué avec la pause de l'été. Et qu'à un moment même, j'étais malade pendant tout l'été, mais je pensais à vous. Ouais. Au moins, j'avais une bronchite et là, tout va bien. C'est un plaisir de vous retrouver.
D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle mercredi dernier, vous n'étiez pas là.
Effectivement, voilà. Et donc, tout va mieux maintenant et on va encore lever les challenges afin d'éclaircir ensemble avec nos auditeurs les points de droit qui peuvent impacter notre vie quotidienne. Et aussi, au-delà de ça, nos droits fondamentaux. La question qui se pose aujourd'hui est à la fois un problème de droit fondamental, mais aussi un problème d'ordre public. L'organisation de l'ordre public qui interdit, connaît certains écarts par rapport à certaines libertés qui nous sont accordées, en l'occurrence la liberté d'expression, comme vous l'avez soulevé à juste titre. Il faut dire que le sentiment de supériorité peut conduire à des agissements racistes, c'est un fait, tels que la xénophobie, les injures et diffamations raciales. Et quand le sentiment de supériorité découle de la considération, ou bien de considérations culturelles, religieuse ou historique, il peut générer du racisme systémique. Quand je dis systémique, c'est qu'au-delà des personnes, c'est le système lui-même. Soit le système étatique ou bien le système sociétal. Mmh. Ça veut dire qu'il y a un État qui a un penchant raciste ou bien il y a une société qui, globalement, repose sur des fondements racistes ou raciaux. Donc, cela s'est avéré dans l'histoire avec beaucoup de sociétés, on va y venir. Et à ce niveau, on peut citer, par exemple, le cas qu'on connaît classiquement de l'apartheid. Vous avez parlé d'Afrique du Sud. Mmh. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont vécu quand même des périodes noires de leur histoire avec un système étatique de racisme. Ça, c'est vraiment un racisme systémique. Il peut y avoir d'autres sociétés où ce n'est pas avéré, mais il y a des suspicions. Je donne un exemple, une société qui attaque par rapport à sa différence d'autres sociétés. Mmh. L'État d'Israël est considéré pour certaines personnes comme par exemple, état dans ce chapitre-là, dans la mesure où il y a des relations belliqueuses avec des voisins comme la Palestine, comme la Cisjordanie. On peut décider d'annexer un pan de la Cisjordanie, comme ça a été décidé hier par Netanyahou. Ce qui fait que certaines personnes pensent que c'est cet État-là, en lui-même, pas les gens, on parle de l'État. Mais les gens peuvent aussi l'être. Certaines personnes pensent que le racisme et les discriminations, par exemple en France, contre les Noirs, sont motivées par des considérations historiques et religieuses négatives. Elles estiment que si les Noirs font l'objet d'actes racistes, si on insulte les joueurs dans les terrains de football par des gestes et des cris de singes, par exemple, si les Noirs sont discriminés au travail, comme vous l'avez dit, pour l'accès au logement, comme nous l'avons traité, avec des contrôles aux faciès, c'est parce que l'inconscient collectif des Occidentaux, pas que la France, des Occidentaux, s'est forgé avec une idée dévalorisante du Noir par le fait qu'il a été l'objet de traite négrière, qu'il a été l'objet d'une colonisation qui a duré pendant des années, pour d'autres personnes, l'objet aussi de colonisation religieuse par les Arabes ou bien par les Occidentaux, par exemple l'Église catholique, et que par exemple, je donne un exemple qui crée une polémique avec la bulle papale de 1454 qui autorisait ou bien qui autoriserait l'esclavage et la traite des nègres. Et avec toutes ces considérations renforcées par des intellectuels comme Diderot et autres qui disaient que, et même des missionnaires qui ont vu la première fois le noir, qui dit que c'est un être sans âme, c'est des gens qui sont indolents, c'est des gens qui ne connaissent que la paresse, qui ne connaissent que le rythme, le tempo, et même des présidents de la République, en l'occurrence en France, un président français qui disait à Dakar que le noir a raté le train de l'histoire de la civilisation. Ouais. En l'occurrence, Nicolas Sarkozy. Et ça, c'est récent. Diderot, je peux comprendre, ces gens ne connaissaient pas l'Afrique. Mais ça a été dit. Avec ces informations qui sont corroborées par des volontés politiciennes de camps parfois qui sont d'extrême droite en Europe.
Et certains chroniqueurs de télé aussi.
Certains chroniqueurs de télé qui ont été sanctionnés. En l'occurrence, Éric Zemmour, qui a été longtemps c'est sanctionné pour ça, pour incitation à la haine raciale. On se rappelle de sa phrase qui disait que la délinquance en France, c'est un fait de noirs et d'arabes. C'est la vérité. Il a été condamné, il a récidivé. Quand on est né dans un système ainsi, que ce soit la France, l'Allemagne ou le Sénégal, et qu'il y a toutes ces suspicions, on peut inconsciemment être dans un état délétère de racisme qui fait que l'autre partie, on va considérer cette personne comme inférieure. Je pense que l'affirmation de Thuram s'inscrit dans ce cadre-là, ce qu'il a voulu dire. Et dans une société qui évolue avec de telles considérations, il est sûr que les Noirs peuvent être vus comme les autres, comme une population inférieure.
Alors, pouvez-vous nous rappeler le contenu et les fondements de la liberté d'expression, si on parle de liberté d'expression dans ce cas ?
Très bien. La liberté d'expression, comme son nom l'indique, c'est une liberté. On considère que les êtres humains naissent libres et égaux, en droit. Déclaration universelle des droits de l'homme, déclaration des droits de l'homme et des citoyens, déclaration des droits de l'homme en France, avec beaucoup de textes et d'instruments internationaux qui sont revenus sur le principe de la liberté. Que la suggestion doit être l'exception. On ne peut pas compromettre la liberté de quelqu'un. Et parmi ces libertés, il y a la liberté de dire sa pensée, il y a la liberté d'exprimer ses opinions, et que c'est un droit fondamental qui est garanti par des instruments internationaux. Et il faut souligner que ce n'est pas en France que c'est né, contrairement à beaucoup de gens qui font l'erreur, que cette liberté est née avec la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789. C'est d'abord aux États-Unis, lors de l'adoption de la Constitution américaine, que la liberté d'expression a été pour la première fois consacrée. Ensuite, elle est édictée comme principe fondamental dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, qu'on connaît effectivement beaucoup en France et surtout pour nous francophones. L'essence de cette déclaration de la Constitution est dans la Constitution dans plusieurs États, notamment les États francophones, l'État français et d'autres États européens qui l'ont adoptée. Ça a aussi été réitéré en France, parce que pour ce qui nous concerne, l'attention est en France, on parle de ce principe, dans la loi sur la liberté de presse du 29 juillet 1881. Donc ça a été réitéré comme un principe fondamental. Ensuite, l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme, qu'on a cité, dit que nul ne peut être inquiété, pour répondre à votre question, M. Phil, par ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public. Donc on sent déjà une nuance de limite, l'ordre public. On ne peut pas, parce qu'on est libre, compromettre la sécurité des autres ou le droit des autres. La liberté des uns devrait s'arrêter là où commence celle des autres, comme on le dit classiquement. Donc, on le sent déjà. Et l'article 11 de cette même déclaration dit plus clairement que la liberté de communication de la pensée et des opinions est un des droits les plus précis de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer, parler à la radio, à la télé, répondre et aussi répondre à l'abus de cette liberté. Est-ce que Thuram, en disant que les Blancs se croient supérieurs, a abusé de cette liberté? Quel est le nœud de la guerre? Nous, on va l'aborder sur le plan technique, pas sur le plan un peu de la polémique qui enfle, parfois n'a pas de sens. Parce qu'il y a des gens qui ont dit pire et qui, pour l'instant, il n'y a aucun débat. Ouais. Ce qui nous intéresse, c'est l'aspect juridique, étudier ces questions et que tout le monde s'exprime sur cette question-là.
D'ailleurs, sans prise sur cette de partie, question, on a observé depuis le démarrage de la Ligue 1, il y a certaines banderoles à caractère xénophobe, on arrête.
Et homophobe aussi.
On arrête une rencontre pour ces banderoles à caractère homophobe. Et lorsqu'on parle de racisme, on n'arrête pas le match. Hein, le match se poursuit tranquillement.
Ça, c'est pire quand même que ce qu'a dit Thuram. Ouais. Et pourtant, ça commence à entrer dans les mœurs du football. Et ça, c'est dangereux. Je pense que c'est dans ce sens-là que la question lui a été posée. Ça a été sorti du contexte. Maintenant, qu'on le dise ou pas, est-ce qu'il a droit, est-ce qu'il a été prudent ou pas, on va y revenir avec les points de vue de nos auditeurs.
Alors, justement, on va aussi inviter, chers auditeurs, appelez-nous au 0155 07 58 00 en direct pour débattre sur ce sujet, la polémique Thuram, liberté d'expression ou incitation à la haine raciale. Alors, Alutal, quelles sont les limites à ne pas franchir avec la liberté d'expression Thuram? Les aurait-il franchi? Justement.
Effectivement. En fait, ces limites, donc avant d'aller sur ces limites-là, il faut dire que cette liberté, au-delà de la France, c'est une liberté de droit international. L'article 10, par exemple, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, pour tous les étudiants en droit, savent que consacre cette liberté. De la Déclaration universelle de l'ONU. et aussi en Europe la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui a été signée à Rome le 4 novembre 1950 et par le Conseil de l'Europe garantit ses libertés en son article 10. En Afrique, il ne faut pas oublier qu'en Afrique aussi, on a des droits. Mmh. En Afrique, ce principe est un principe normalement fondamental. Il a été édicté à l'article 9 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 29 juin 1981 qui reconnaît par contre vaguement cette liberté sans préciser, ce qui fait que parfois il y a des dégâts au niveau de la pratique de cette liberté. En France, parmi les limites par rapport à la question que vous avez posée, on a dit que même si vous êtes libre, vous ne pouvez pas dire tout, il y a l'ordre public.
Ouais.
Et il y a une loi importante qui est venue un peu restreindre le champ de cette liberté qu'on appelle la loi Guesso du 13 juillet 1999, non 90 autant pour moi, 1990, qui interdit ainsi, par exemple, la négation du génocide juif. On serait coupable de nier l'existence du génocide juif. Ça pourrait être considéré comme l'apologie du racisme ou bien comme une incitation à la haine raciale. C'est une première limitation formelle qui a été éditée ici en France. Donc cette liberté est limitée par aussi d'autres réalités. Je donne un exemple pour protéger les chefs d'État. Normalement, un chef d'État, c'est le chef de la République.
Exact.
A priori, on ne doit pas attaquer directement sa personne gratuitement. Mmh. Ce qui a fait que dans certaines législations, comme en France, il y a le délit d'offense au chef de la République. Dans d'autres pays, ce qu'on appelle le crime de lèse-majesté, si vous parlez mal au chef, on peut vous mettre en prison. Et il faut dire qu'il y a certains États qui en abusent. Certains régimes abusent de ça pour museler l'opposition, il faut le dire.
Et certains chefs d'État, pour parler de la France, ont été même enfarinés. Hein. On est allé très très loin.
Oui, effectivement. Ouais. Effectivement, donc c'est un camaillage juridique, c'est comme la liberté d'expression. Jusqu'où ça s'arrête? Protéger le chef de l'État jusqu'à ce que même l'opposition qui dit « Ah oui, il a pris une mauvaise décision ». Parce que là, la décision qui a pris sur l'impôt, c'est pas bon. Top prison, là, ce n'est plus la liberté d'expression. Et on en rigole, mais ça existe. On n'accuse personne, mais ça existe.
Ouais.
Alors, par rapport aussi à ces limites, il faut dire que les actes, injures et discriminations racistes sont condamnés par les lois pénales. On a cité la loi, par exemple, du 29 juillet 1881 et aussi le code pénal, parce que qui a été une loi qui a impacté les lois de beaucoup de pays d'inspiration juridique francophone, en l'occurrence, les lois des pays africains qui sont francophones. L'injure est définie, on l'avait étudié, comme toute expression outrageante, des termes de mépris ou d'invective, comme par exemple en disant sale arabe, sale noir ou sale blanc, adressé à une personne ou à un groupe à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée et même maintenant une orientation sexuelle.
Mmh.
Donc ça, ce serait injurieux. L'injure raciale peut être publique ou non publique. Quand c'est public, c'est plus grave. On a connu un certain Donald Trump qui disait, par exemple, des nations africaines, que c'était les nations de M. On ne va pas dire la suite de M et la suite des nations de M. Là, c'était vraiment, on peut considérer ça comme une injure.
On peut le dire à Lutal, hein,
on peut le dire, hein.
Des pays de merde, voilà.
Voilà, je laisse dire ça.
Ouais.
Et donc, et quand elle est publique, ça peut être grave. Et faites attention sur Internet, parce que les gens font maintenant des injures publiques. Mmh. Ce n'est pas parce que vous êtes derrière votre écran ou bien votre tablette, votre smartphone, et que vous êtes dans le privé. Mmh. À partir du moment où c'est accessible avec Internet et sa ramification, l'ubiquité Internet, vous rendez public la publication, le post. Vous êtes sous le champ d'une incrimination pénale qui est plus forte que si c'était dans le cercle privé, ouais, avec un ami et que celui-ci l'a sorti. Donc il faut aussi dire que la diffamation raciale publique est aussi une contrainte par rapport à la liberté d'expression. Mmh. On ne peut pas, sous le prétexte de la liberté d'expression, diffamer quelqu'un ou un groupe de personnes. La diffamation est définie comme toute allégation ou imputation d'un fait qui est précis, mais faux, qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel cette personne est imputée ou est présumée appartenir. Exemple, on dit « les Roms sont des voleurs », comme d'habitude. La diffamation raciale diffère de l'injure, on l'a dit tout à l'heure. L'injure, c'est un peu imprécis, mais là, c'est précis. Est-ce que ce que Thuram a dit, on peut considérer que c'est la diffamation? Si j'étais blanc, je ne suis pas blanc, je pourrais me sentir gêné. Si moi, ça ne me considère pas du tout, ça ne me concerne pas, je dis « Ah non, moi, je ne me suis jamais considéré comme supérieur. De par mes convictions culturelles, ouais, religieuses, je considère que les êtres humains naissent libres et égaux. Ce n'est pas une histoire de déclaration des droits de l'homme. C'est une conviction fondamentale. Donc, Thuram me cause en tort à partir du moment où il fait l'amalgame. En accusant tous les blancs d'être comme ça, or je suis blanc et que je ne suis pas comme ça, il me cause en tort. Sous ce chapitre-là, Thuram pourrait risquer quelque chose, effectivement. Maintenant, il faut savoir, est-ce que ce qu'il a dit, c'est vrai ou c'est faux? Si l'avocat de Thuram démontrait que ce qu'il a dit, c'est vrai, s'il démontrait que depuis Matouzalem, depuis le premier missionnaire, on considérait que le naître, comme Alutal, avec les nez épatés, les jambes larges, ce gars qui est toujours là en train de dormir, hein, qu'il le dise, et qu'il le démontre, et que depuis cela, les gens considèrent que les Noirs sont inférieurs. S'il le démontre à travers le code noir, il faut dire qu'il y a une histoire quand même de ces gens qui ont subi l'esclavage, qui sont des descendants. Ils ont été chosifiés. Avec le code noir, le noir a été ramifié, arrimé à l'état de bien. Ça veut dire d'une chose ou d'un chien. Ça veut dire que le même droit que le maître a sur son chien ou bien sur son fauteuil, il avait le même droit que sur le noir. Il pouvait le vendre. Est-ce qu'à ce niveau-là, on ne peut pas considérer que ces gens qui ont fait cette loi, qui était une loi appliquée partout, ne considéraient pas le noir comme un être inférieur. Donc là, ce serait difficile de le nier. Effectivement, s'il y a des éléments tangibles qui démontrent que ce qu'il a dit, ce n'était pas une affirmation gratuite, mais une affirmation considérée. Et là, il y a de fortes chances qu'on puisse démontrer que pendant un temps, pendant des années, pendant des décennies, on a considéré avec des lois, avec des faits, le noir comme un être inférieur. D'autant plus que il y a des discriminations actuelles et factuelles qui justifient que le noir, en tant que tel, du simple fait qu'il est noir, il peut avoir des difficultés à accéder au logement, il peut avoir des difficultés à accéder au travail, il peut être l'objet de contrôle de faciès parce qu'il est noir. Tous ces éléments-là, est-ce que ça ne conforte pas l'idée d'un système systémique, sociétal? Je ne parle pas d'un système étatique. L'État français n'est pas du tout raciste, on ne peut pas le dire. Ça fait partie des pays où on a de plus de droits décrétés et qui sont appliqués pour défendre les gens. Ouais. Mais est-ce que la société française elle-même n'aurait pas des penchants de considération de noir comme un être inférieur au regard de l'histoire? L'esclavage, traite négrière, code noir, tout ça, colonisation.
Hein? Alors, peut-on considérer la société française comme une société conservatrice, Aliotal?
Oui, on peut dire qu'elle est conservatrice dans la mesure où il y a des valeurs. Je donne un exemple. On dit que nous, on n'est pas comme vous. On est d'inspiration et de culture judéo-chrétienne. Ça veut dire qu'on veut garder ça. Mais il y a des gens qui sont progressistes et avant-gardistes. Heureusement que la société évolue. On parle des PMA et des GPA, la gestation pour autrui. Ça veut dire qu'à ce niveau, on ne peut pas parler que les considérations conservatrices d'avant continue de prospérer. Parce qu'il y a quand même du lobbying qui marche. Cette société ne pouvait pas imaginer il y a 20 ans que le mariage entre gens de même sexe, le mariage homosexuel pourrait exister. Or maintenant, il y a la loi Taubira qui existe. Et récemment, on va pouvoir faire un enfant pour quelqu'un d'autre et que ce soit maintenant légal. D'autant plus que le gouvernement y travaille, même s'il y a des complications au niveau juridique. Donc certes, conservatisme par rapport aux valeurs fondamentales, mais évolution par rapport aussi à l'actualité. Donc à ce niveau, on peut dire que Lilian Thuram pourrait aussi être dans le champ d'une incrimination qu'on appelle la provocation raciale. La provocation ou l'incitation à la provocation raciale. Ou bien l'incitation à la haine raciale, tout simplement. Par exemple, d'autres ont été sanctionnés par ça. D'autres ont dit, par exemple, des choses un peu génériques de manière globale, mais qui n'en avaient pas la preuve. Alors que les moyens sont multiples pour parvenir à cette incrimination. Ça peut être des discours, une interview comme lui, ça peut être des menaces proférées dans des lieux publics, des écrits. Et ça, c'est incriminé par la loi pénale. Il faut faire très attention, sauf si on est sûr de ce que l'on dit. Si on est sûr de la preuve, on peut dire cela, parce que là, c'est la liberté d'expression qui va entrer en jeu.
Polémique, Thuram, liberté d'expression ou incitation à la haine raciale. C'est donc le dossier du jour, de façon technique, dans le droit. Et nous, on va donner la parole à nos auditeurs. Allô, allô, bonjour.
Oui, allô, bonjour.
Oui, bonjour, c'est monsieur.
C'est monsieur Samo.
Monsieur Samo, nous vous écoutons sur le dossier.
Bonjour, en monsieur Samo.
Oui, bonjour, monsieur
Tal. Tal. Ah, merci, vous avez dit mon nom correctement, merci.
Ok. En fait, j'aimerais poser une seule question. Ma question est de savoir pourquoi on dit les Européens sont blancs. La couleur, est-ce qu'elle est blanche ou c'est une autre couleur? Moi, ça, depuis je vais à l'école, je vois la couleur blanche et là, on me dit c'est blanc. Donc, moi, ça me travaille.
Alors, je vais vous poser une question. Est-ce que ça ne vous travaille pas qu'on dise que les Noirs sont Noirs? Est-ce que tous les Noirs sont Noirs? Est-ce que déjà, est-ce que ça existe un Noir, la couleur noire en tant que telle, de manière intrinsèque, ce qu'on identifie de manière conventionnelle?
Moi, j'ai un pote qui est vraiment noir. Ouais, il est vraiment noir. Ça, vous
ne plaît pas. Bon, moi aussi, j'ai une pote qui est vraiment blanche. Hein. Elle vient des pays nordiques, là. Elle vient de Norvège, mais quand on la voit, elle était à la fac, elle était vraiment avec la couleur de mon cahier, en fait.
Comme quand je prends le drapeau de la Côte d'Ivoire orange blanc.
Vert.
Oui.
Est-ce que c'est pareil que ce blanc-là?
Oui, en fait, d'accord, je comprends bien ce que vous dites. Là,
oui.
C'est juste qu'on a identifié les gens par rapport à la couleur qu'on pensait être la plus proche. Même au niveau technique, les couleurs, le blanc, est-ce que ça existe? Est-ce que le noir existe? Comme si on analyse ainsi, on peut dire c'est quoi le noir? Il y a des gens qui considèrent que le noir n'existe pas.
Je dis aussi, c'est dans le thème de supériorité aussi. Le noir, on attribue le noir à l'obscurité, au mauvais, au diable. Le blanc, tout ce qui est symbolique, le mariage en blanc, qu'on appelle la colombe blanc, tout ça, c'est
très pertinent ce que vous dites, monsieur. C'est très pertinent parce qu'effectivement, l'histoire a fait que dès que c'est sale, on dit que c'est noir. Ouais. Parce que le noir, ouais, effectivement, visuellement, ça recoupe beaucoup de couleurs.
Ouais.
Donc, quand on met beaucoup de couleurs, beaucoup, beaucoup, on renvoie au noir finalement.
Et même dans la religion, ben, on considère que Jésus, il est blanc. Enfin, ouais, il était blanc.
Oui. Ouais, tout ça. Et effectivement, quand on dit par exemple magie noire, quand c'est pas bon, c'est noir.
Voilà, un peu tout ça, ça fait pas partie du racisme, du truc de supériorité et infériorité aussi.
Bah, on peut le dire, c'est des points de vue, mais je pense qu'il y a le poids de l'histoire qui a fait qu'effectivement, finalement, dès que c'est pas bon, on qualifie ça à noir. Mais je ne crois pas qu'au départ, c'était par rapport à soi. Au départ, c'est des gens qui étaient de couleur plus ou moins blanche, même si vous pensez qu'ils ne sont pas blancs-blancs, et qui ont vu qu'il y a des gens qui étaient plus ou moins foncés, très foncés. Je pense qu'au départ, c'était ça. Et après, effectivement, il y a l'histoire. Parce que le premier contact, il n'y avait pas l'histoire. C'est après qu'il y a eu l'histoire, la traite négrière et tout ce qui a suivi, qui fait que finalement, on a essayé d'accabler l'homme noir à travers sa couleur et aussi cette couleur qui s'est avérée être la plus proche de toutes les races, de la couleur qui est la plus sombre, qu'on peut appeler noir ou autre chose. Mais effectivement, moi, je suis d'accord avec vous. La dernière remarque que vous avez faite est très pertinente. À chaque fois, il faut qu'on fasse ce travail. À chaque fois que ça ne va pas, on considère ça que c'est un noir.
Que c'est noir.
Il y a beaucoup d'expressions, je ne vais pas entrer dedans pour ne pas choquer, qu'il y en a au moins une dizaine d'expressions où c'est noir, ça renvoie à noir. Quelque chose de noir, et c'est toujours mauvais. Et là, on doit faire ce travail-là au niveau vraiment syntaxe, au niveau même de la grammaire. Oui, les gens comme Senghor qui étaient à l'académie, je ne sais pas ce qu'il faisait, parce que Senghor, comme vous dites, il était pratiquement noir, hein, lui carrément comme le charbon. Et il n'a rien fait à ce niveau, il était académicien. Je pense que ce travail-là doit être fait, c'est un élément très important qu'on venait de soulever. Parfaitement d'accord avec vous.
Voilà. Okay. Merci beaucoup, monsieur Samo, pour votre appel. On va donner la parole à un autre auditeur. Allô, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, c'est monsieur.
Monsieur Samba.
Monsieur Samba, nous vous écoutons. Vous êtes en voiture?
Oui, je suis en voiture, oui.
D'accord.
Bonjour,
notre juriste,
c'est ça, là. Bonjour, monsieur Samba.
Bonjour, ça va?
Bien, merci, vous.
Moi, je voulais savoir pourquoi les Blancs ne respectent pas les Noirs. C'est ça le problème.
Pourquoi les Blancs ne respectent pas les Noirs?
Oui, c'est ça le problème, quoi. Pour moi, c'est l'image de l'espèce. Pour ça, quoi.
Je n'ai pas entendu la fin de la question.
Pourquoi les Blancs ne respectent-ils pas les Noirs?
Il y a une suite. La suite, vous disiez quoi, la suite?
Oui, que la suite, si tu vois, depuis au début, si on parle de colonisation, tout ça, si tu le vois, moi, je le vois comme manque de respect, parce que manque de respect, toi, tu es dans ton pays, ils viennent là-bas et ils nous prennent leur force pour nous ramener, pour faire comme l'histoire des esclaves, l'esclavage.
Oui.
Si tu regardes ça, tu dis, mais ça, c'est des masques de respect. Et jusqu'à maintenant, ils ne donnent pas de respect, ils ne pensent pas, ils ne disent n'importe quoi, ils ne traitent n'importe quoi. Mm-hmm. Et il n'y a personne qui dit rien. Après, Thuram, il a dit une chose, et tout le monde, il voulait polémiquer. Et eux, c'est pire que ça. Moi, je ne comprends pas, franchement.
Oui, je suis parfaitement d'accord sur le fait, monsieur, sur la dernière partie de votre question, on peut en discuter. Mais il ne faut pas dire que le racisme est un fait blanc. Vous savez qu'il y a des Arabes qui ont fait aussi du racisme en Afrique avant les Européens. Mmh. Il y a des Africains qui ont fait du racisme entre Africains eux-mêmes. Et ça, c'est depuis des temps. Depuis Mathusalem, il n'y avait même pas un Européen qui avait flirté avec le continent africain. Comment expliquer quand je veux dire, quelqu'un qui est de l'Empire, par exemple, Sonrai, parce qu'il est roi, il avait des esclaves et il y avait une traite interne d'esclaves. On vendait les esclaves, on échangeait, c'était une monnaie d'échange. Comment expliquer qu'avec les razzias, les gens attrapaient des gens et les revendaient? Comment expliquer que dans le nord du Sénégal, un village qui s'appelait Nder, des Mauritaniens ont venu pour attraper des gens, tuer des enfants et pour pouvoir les vendre? Ça, c'était en Afrique, c'était intra-africain. Donc, la traite, l'infamie de l'esclavage n'est pas un fait qui est strictement dédié aux Blancs. C'est faux. L'esclavage existe, la traite existe. C'est malheureux, mais effectivement, il y avait de l'esclavage avant cela. Et on ne peut pas en déduire le fait qu'il n'y a pas de ça, qu'il n'y a pas de respect. Les gens cherchent le profit, on cherche la facilité. On est d'accord ? On cherche une sinécure, on cherche à avoir de l'argent facile et on vend. C'est l'être humain qui a la cupidité. Cette cupidité, on l'a vu avec l'esclavage, mais on le voit toujours même dans la relation du travail, même dans la relation familiale. Ça, sur ce point de vue, il faut faire très attention à ne pas faire l'amalgame pour dire que le racisme, il est nécessairement blanc.
Merci à Lutal, on prend un autre auditeur. Allô, allô, bonjour. Allô, bonjour, vous êtes en direct, c'est monsieur ?
Allô ?
Oui, c'est madame ?
Oui, c'est madame Myoterina Laetitia. Bon, ben, je viens d'écouter les intervenants et je salue aussi l'homme de droit qui est avec vous.
Oui, oui. Aliou Tal.
Merci, monsieur Tal, oui.
Oui, monsieur Tal.
Tal, T-A-2-L. Tal, comme tôle, comme grand.
C'est la rentrée du nom d'Aliou Tal. Nous vous écoutons, madame.
C'est pas grave, j'ai entendu Halloween et Alléluia. Mon pronom, c'est Aliou, A-L-I-O-U. Mais quand je donnais des cours, les étudiants, pour des raisons de distance culturelle, m'appelaient Halloween, Alléluia. D'accord. Donc, mais mon nom de famille, c'est Tal. Et mon prénom, Aliou. A-L-I-O-U. Voilà.
Nous vous écoutons, madame.
Alors, moi, vraiment, très sincèrement, je suis outrée de tout ça parce que choquée en même temps qu'ils se prennent trop facilement. C'est vrai, le monde a évolué. C'est long. On a vécu tout ça. Mais pourquoi ça devait toujours surgir? Moi, c'est le côté que c'est comme si ce mal-être qu'ils ont donné aux uns aux autres, d'autres veulent s'en protéger et d'autres doivent toujours en subir. Pourquoi? Le monde a évolué. Oui. On a subi ça déjà. Nos arrières ont subi. Le côté noir doit toujours être attribué au noir. Comme l'intervenant qui vient de dire, le blanc doit toujours donner au blanc. Et il y en a qui se font un malin plaisir de pouvoir le savourer dès qu'il y a moins d'erreurs par un noir. Et ça y est, on va en faire un sujet qui va encore diviser davantage. Moi, actuellement, très franchement, je suis en train de combattre cela dans ma résidence. La personne blanche qui veut que, parce qu'il y a une noire, et que ça puisse se sentir mauvais pour attribuer la saleté au noir.
Oui.
Vous vous rendez compte? Jusqu'à le dire très haut, ici, c'est le noir qui doivent puer. Mais jusqu'à quand? Le monde a évolué. On est censé côtoyer, on est censé cohabiter. Mais non, mais ce mal-être, pour eux, comme ils ont attribué cela pendant des décennies, et que ça doit nous suivre. Non. À un moment donné, moi, je pense que tu rames. C'est une goutte d'eau, en fait, et c'est un trop-plein. Et il a dit vraiment ce qu'il il ressentait. Parce qu'on le vit encore. Et je pense que de temps en temps, il est quand même nécessaire de rappeler qu'on n'est pas plus inférieur qu'inférieur.
Je suis parfaitement d'accord sur ce point avec vous. L'analyse est claire et nette. Je vais vous donner une histoire, une petite histoire. Dans le 16e arrondissement, dans mon propre immeuble, j'entre plusieurs fois, on me demande, monsieur, vous allez où? Et j'entre avec mon badge. Je ne suis pas, pas entré avec quelqu'un d'autre. Quand on entre avec quelqu'un d'autre, ce n'est pas bon. On me demande où je vais. Je dis,
parce que vous êtes noir.
Voilà. Et moi, comme la question est ridicule, je donne une réponse ridicule. Je dis, madame, je cherche mon appartement. La personne me dit, mais c'est pas normal, parce que vous habitez ici, vous devez connaître votre appartement. Je dis, alors vous vous rendez compte que vous êtes ridicule, madame. C'est mon extranéité qui vous a amené à me demander où je vais. Elle me dit, mais parce que je ne vous connais pas dans l'immeuble. Parce que moi, ça fait 3 ans que je suis là. Je dis, moi, ça fait 3 ans que je suis là, plus de 9 ans. Donc, mon extranéité de noir causait un problème. Et je ne suis pas le seul. Dans d'autres cas de figure, effectivement, c'est des problèmes factuels qui existent. Pour revenir
à Turam. Comment peut-il agir, maître? Comment doit-il répondre à ces gens de personnes? Doivent-ils vraiment sacrifier notre temps à répondre, à faire des à porter plainte? C'est comme si, pour eux, c'était des vices. Ils vivent que de ça. Donc, on va les empoisonner la vie. C'est des noirs. Il faut vraiment les déranger. Même quand vous êtes respectueux, vous voulez vous intégrer, être comme monsieur tout le monde, mettre au boulot dodo. Non, ils vous cherchent. Jusqu'à faire pourrir la poubelle dans les escaliers pour donner cette image de noir qui pue. Mais non, mais il faut que ça s'arrête. Moi, très franchement, ce qu'ils ont dit auprès de Turam, oui, incitation à la haine, machin. Mais la haine, franchement...
Non. Sur ce point, je vais vous dire juridiquement, on ne peut rien faire contre Turam par rapport à ça. Parce qu'il y a des éléments de fait qui attestent ce qu'il dit. On ne pourrait l'accuser que sur la base de la diffamation. Ce n'est pas injurieux ce qu'il a dit. Et donc, à ce niveau-là, il y en a qui ont voulu créer le buzz médiatique pour dire que, regardez, nous ne sommes pas les seuls. Il y a un noir quand même qui le fait. Et alors qu'on sait bien que c'est un monsieur qui est très respectueux. Et il y a d'autres comme Elisabeth Lévy qui, à longueur de journée, dans son journal que je ne vais pas citer pour ne pas faire la publicité, n'arrête pas, par exemple, de taxer. Donc, des catégories, des minorités. En disant carrément, par exemple, que majoritairement, dans les pays musulmans, il y a un problème d'intégrisme dans tous les pays musulmans. Ce qui est faux. Un pays comme le Sénégal, où il y a 98% de musulmans, il n'y a pas d'intégrisme. Ce qui est faux. Et c'est des personnes qui disent ça ouvertement et qui surfent sur ça pour vendre du papier. Voilà. Il y a Roselyne Bachelot, pareil, qu'on connaît.
On est trop resté longtemps à assister, à accepter, à avaler. Mais à un moment donné, il faut franchement que ça éclate, quoi.
Voilà, merci beaucoup.
Et juste un dernier mot pour madame, pour dire quand même, bon, je dis qu'effectivement, je suis d'accord avec cela, mais nous aussi, on doit prendre la précaution de maîtriser notre place. Je donne un exemple. Pour se faire respecter, il faut respecter les us et coutumes du pays d'accueil.
Ouais.
Il faut quand même être correct. Madame, quand vous allez à Gare du Nord et que moi, je comptais un jour 97 Africains pointés à Gare du Nord, rue de Denné, avec tous une bouteille d'alcool, en picolant et en parlant fort, les voisins ne pouvaient pas respirer. Est-ce que ça, c'est correct? Est-ce que ça valorise le noir? Quand vous allez à Château-d'Eau, écoutez-moi, madame, s'il vous plaît, je vais juste terminer, madame, s'il vous plaît. Madame, je vais juste terminer sur ce propos. Après, on pourra y revenir. C'est un débat un peu passionné, mais il faudra qu'on, nous aussi, on soit responsables. Vous allez à Château-d'Eau, il y a au moins 500 noirs sur le trottoir à faire de la vente, à la chose, faire ce qu'ils veulent dans un pays où c'est interdit. Est-ce que ça participe à aider à considérer le noir? Donc, je pense qu'il faut commencer à laver le linge sale en famille et après, on pourra réclamer nos droits.
D'accord, ok.
Voilà. Ok, merci.
Mais le linceul, en sa famille, on le lave quand déjà, là où on est considéré comme égaux. Je pense.
Voilà. Merci beaucoup, merci pour votre madame, pour votre intervention. Passez une bonne journée. Hein, plus que 4 minutes à passer avec vous, chers auditeurs. On va prendre quelqu'un d'autre. Allô, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, c'est monsieur.
Monsieur Canal Amboni.
Nous vous écoutons, monsieur Canal Amboni.
Oui, au fait, je salue tous les Africains et votre invité, monsieur Tal.
Merci.
Alors, oui. Aujourd'hui, le sujet de ce matin parle d'un fait, des faits historiques, d'une chronologie historique, c'est-à-dire de l'histoire. Mm-hmm. Ça n'a rien à voir avec le droit. Mm-hmm. Donc, le sujet devait être traité par des historiens, parce que j'entends de gauche à droite vraiment des faits, des choses qui se disent, mais qui ne sont pas vraies. Mm-hmm. Parce que quand on parle du racisme aujourd'hui, ça a une chronologie, ça a une origine historique. Mm-hmm. Hein? Parce que quand on lit la culture et, des Africains, la référence, elle est complètement bien décrite par Cheikh Anta Diop dans Nation Nègre et Culture et Antériorité des civilisations nègres. Voilà les deux livres que les Africains doivent lire et comprendre d'où ils viennent. Alors quand on parle de racisme, mais c'est un fait historique qui a été alimenté par les Blancs. Et nous soutenons, nous, aujourd'hui, entièrement ce que Lilian Thuram a dit. Il ne faut pas venir dire que les Africains faisaient de l'esclavage. Ça, c'est faux. L'esclavage a commencé en Europe. Ce sont les Blancs qui faisaient l'esclavage entre eux-mêmes. D'accord ? Et je vous donne, il y a les professeurs Kogi, les professeurs Umutundi qui le disent, qui le chantent depuis des années. Donc aujourd'hui, il ne faut pas venir encore dire n'importe quoi aux Africains. Parce que quand on prend même la culture des Africains, dans aucune des langues en Afrique, et cela n'a aucune contestation possible, il y a le mot esclave. Le mot esclave vient de slave, des Anglais. C'est eux qui ont créé ça. Donc il ne faut pas venir, vraiment, c'est du fait historique. Il faut inviter des historiens pour en parler.
Merci beaucoup, monsieur. Il ne reste plus que 2 minutes. Donc la réponse d'Aliutan avant
monsieur, je pense que vous avez peut-être pris l'émission en marche. On a bien dit qu'on parle ici de la liberté d'expression, l'expression et de l'incitation à la haine raciale. Si vous manquez une émission, il faut être très prudent. Même si vous avez une connaissance, il ne faut pas vouloir plaquer votre connaissance à tout prix. On parle d'un sujet de droit. L'appréhension d'un fait de Thuram par rapport au droit et à la polémique. Qu'il y ait des considérations historiques, les gens ont parlé, on parle de ce qu'on veut. Que vous ne soyez pas d'accord que, par exemple, ce que vous dites, il n'y a pas le mot esclave, c'est qu'il faut. Dans ma langue, il y a le mot diam qui veut dire esclave. Et des gens dans mon village, dans d'autres au Mali, ont été des esclaves depuis des temps immémorieux. Le blanc n'était pas là. Si ça n'existe pas dans votre coin quelque part, il ne faut pas dire que ça n'existe pas ailleurs. C'est faux ce que vous êtes en train de dire. Ça, c'est un premier problème. Il faudra aussi dire que si on parle de l'histoire, on ne parle pas d'histoire ici. Entre vérité historique et vérité judiciaire, je vais vous apprendre qu'il y a une différence. J'espère que vous avez suivi le procès de Maurice Papon. On n'est pas dans ces considérations idéologiques où on va dire que c'est l'histoire qui va faire le droit ou bien c'est le droit qui va faire l'histoire. La considération conventionnelle étatique ne peut pas faire l'histoire. On n'est pas dans ce chapitre-là. On est dans un chapitre strictement juridique comme l'émission s'appelle « Le droit et nous ». Il faut suivre l'émission dès le départ. On a bien annoncé qu'on ne va pas entrer même sur les considérations journalistiques et historiques. Ce qui nous intéresse, c'est la liberté d'expression. Est-ce que Thuram, à travers son droit fondamental à une liberté d'expression, avait le droit de dire ce qu'il a dit ? C'est ça la problématique. Et les auditeurs ont dit ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent. Et ça aussi, la liberté d'expression. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Mais ne dites pas que c'est faux, que l'esclavage n'existait pas. Je vais vous donner, prenez mon email, je vous donnerai des livres que je vais vous offrir. 4 livres. Vous allez apprendre beaucoup sur l'Afrique et son histoire depuis le 12e siècle jusqu'à maintenant.
Merci beaucoup, Aliutal. D'ailleurs, peut-être que nous allons revenir.
Oui, je pense très bien.
On va revenir sur le sujet la semaine prochaine, donc mercredi prochain. Appelez-nous dès 9h pour justement, 9h heure de Paris, bien évidemment, pour revenir sur ce sujet. Et d'ailleurs, si vous voulez écouter à nouveau cette émission, vous faites un tour sur le site d'Africa Radio, www.africaradio.com. Polémique, Thuram, liberté d'expression ou incitation à la haine raciale. Ne bougez surtout pas, on marque une pause et on revient juste après.
C'était bien.